Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nelson Gurner. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, on a beaucoup de chance à Paris, en France, parce qu'il y a beaucoup de concerts que vous avez donnés, que vous allez donner, notamment à Paris. Il y a quelques jours, vous avez interprété au pied levé le troisième concerto de Rachmaninov, Nelson Gurner. C'est vraiment l'œuvre la plus simple qu'on vous a demandé d'interpréter au pied levé avec le Concertgebouw d'Amsterdam.
Comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas sûr d'accepter un tel défi, hein, parce que c'était vraiment au pied levé. On a fait appel à moi la veille du premier concert et c'était tard le soir. Je n'avais pas touché ce concerto depuis
Bah,
bientôt
vous avez
4 ans.
écouté
Oui,
l'interpréter à la
oui,
Roque d'Enterron, un
oui. Et ça,
souvenir
c'était
inoubliable.
effectivement la dernière fois où je l'avais joué. Mais j'étais tellement heureux de pouvoir le faire avec l'orchestre du Concertgebouw qui est
Oui, il y a
évidemment
pire.
somptueux et Fabio Luisi, que c'est un musicien, mais que j'admire profondément.
Alors, on va parler du futur, Nelson Gurner, puisque on aura la chance de vous écouter dans trois concerts très très différents à Paris. Le 30 mars prochain, vous serez à la Philharmonie aux côtés de Martha Argerich pour rendre hommage à un pianiste qu'on adorait, qu'on adore toujours, malheureusement trop tôt disparu, Nelson Freire. Donc un hommage, vous interprétez des œuvres à deux pianos, Mozart, Debussy et Rachmaninov. Alors, je sais pas, il y a des musiciens, des êtres qui disparaissent, on est triste, ça a un impact, on est malheureux de plus aller les écouter. Mais il y a des artistes comme Nelson Freire, il y a une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens disparus et que même moi qui n'ai jamais rencontré cet immense artiste, j'étais peiné comme si c'était un proche. Enfin, c'est des gens qui suscitent une admiration et un engouement particulier.
Oui, et je pense que non seulement il suscite justement cette admiration, cet engouement, mais de l'amour aussi. C'était quelqu'un d'un naturel bienveillant, c'était une personne de qualité humaine extraordinaire. Et donc, en plus de l'artiste qu'il était, c'était quelqu'un qu'on aimait et qu'on aimait côtoyer, on aimait discuter avec lui. Comme je vous disais,
Hors micro.
hors micro, oui, et nos rencontres, elles ne sont pas très, très, très nombreuses, mais elles ont été toujours d'une qualité que je n'oublierai jamais parce que il ne s'imposait jamais. C'était quelqu'un de doux, très doux
Comme
comme
son son,
personne.
en
Oui, comme
quelque
sa
sorte.
sonorité, qui était une sonorité qui portait dans la salle. C'était une sonorité qui était très parlante.
Alors
Oui.
justement,
Et
c'est...
très vivante, très riche, très expressive, charnue. Alors j'ai toujours adoré sa manière de faire sonner le piano. Je l'ai toujours admiré et comme musicien, son instinct, son intelligence.
Mais...
Oui, et je pense que justement sa disparition nous a tous laissés mais dans le désarroi, hein, parce que on s'y attendait pas, on pensait que enfin, ça ne pouvait pas venir.
Surtout qu'il y avait un côté chez lui, comme un enfant émerveillé quand on le voyait arriver sur scène. Il y avait un côté juvénile dans sa figure. On n'imaginait pas Nelson Freire
Absolument,
vieillissant
oui. Et
et
puis
confronté à la
j'ai des
maladie.
souvenirs qui sont merveilleux parce que la première fois que Martha Argerich m'a invité pour un concert autour d'elle et de ses amis. J'étais tout jeune, c'est là où j'ai rencontré Nelson Freire et il a voulu m'entendre jouer parce qu'il avait entendu travailler, il m'avait entendu travailler derrière une porte. Et alors il voulait que je joue pour lui ce que j'étais en train de travailler, c'était les arabesques de concert sur le beau Danube bleu de Schulze-Bleiler. Et alors après, aussi bien lui que Martha m'ont poussé sur scène pour jouer cette œuvre en guise de bis du concert. Et je me souviendrai toujours de à quel point il était bienveillant, encourageant et tout. Et ensuite, il était aussi dans un autre moment dont je me souviendrai toujours, c'est quand j'avais fait mon premier récital à Rio. Et donc, il était chez lui, il est venu à ce concert, je ne savais rien. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était dans la salle. Et
Heureusement,
après,
peut-être, non?
on a passé une
Il vaut
soirée,
mieux,
mais.
excusez-moi de vous interrompre, il vaut mieux pas savoir que
Non, il vaut
des
mieux de
pianistes
ne
comme
pas
ça sont dans la
savoir. Oui,
salle
mais
avant.
avec lui, j'aurais pas eu peur. Il y a d'autres pianistes que je sais plus critiques, plus. Et c'est pas que lui, s'il avait quelque chose à dire, il vous le disait, évidemment. parce qu'il était très honnête. Mais il avait une façon qui était tellement noble, tellement sympathique, tellement humaine de vous dire les choses que j'aurais pas eu peur de savoir au préalable s'il avait été dans la salle.
Alors pour lui rendre hommage, vous serez aux côtés d'une une autre immense pianiste qui, elle, était très proche de Nelson Freire, Martha Argerich, pour un répertoire génial. Vous commencez par la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, et puis cet immense chef-d'œuvre aussi qui est en blanc et noir de Debussy, et puis une des dernières œuvres de Rachmaninoff.
La toute dernière,
les danses symphoniques. Qui est une œuvre merveilleuse aussi.
Extraordinaire. Et qu'eux, ils ont beaucoup joué ensemble.
Oui, tout à fait.
Martha et Nelson, oui.
Oui, alors il y a
ils
des
enregistrements. Ils l'ont
même enregistré, oui. Il y a des suites pour deux pianos. Oui. Et alors, quand vous jouez avec une pianiste comme Martha Argerich, vous avez chacun vos personnalités, une merveilleuse personnalité pianistique et humaine et musicienne, mais en fait, vous êtes quand même très, très différents. Comment ça se passe au niveau du travail pour quand on joue avec Martha Argerich?
Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que deux personnalités qui peuvent être très différentes autour d'une pièce à deux pianos, on peut trouver mais une entente fabuleuse, hein, parce que forcément on n'est pas toujours attiré par les personnes qui nous ressemblent, mais par ceux avec lesquels on a des différences, on a des
constructions
différentes, et il y a des défis qu'on se lance et mutuellement, et ça c'est précieux, ça n'a pas, n'a pas d'égal. C'est justement quand vous jouez avec quelqu'un que par tempérament vous n'êtes pas très semblable, ça peut apporter quelque chose, je crois, de spécial.
Mais justement, à propos de Nelson Freire, quand je regarde votre répertoire, qui est immense, qu'on a eu l'occasion de parler de multiples compositeurs, vous avez enregistré des disques qui vont de Debussy à Chopin, en passant par Paderewski ou d'autres compositeurs inattendus et magnifiques, il y a quand même des parallèles avec le répertoire de Nelson Freire, c'est-à-dire votre amour de Debussy, et puis Schumann aussi, qui sont des compositeurs tellement importants pour vous.
Oui, je crois en effet qu'on peut établir un parallèle de nos répertoires. J'ai toujours aimé sa façon de concevoir les programmes de récital, parce que ce n'était pas une approche intellectuelle. Lui, il jouait les musiques qu'il aimait à ce moment-là de sa vie. Et c'est pour ça que c'était des programmes composés de beaucoup de compositeurs divers, c'est qu'on ne fait plus tellement maintenant. Et moi, j'ai toujours aimé ça.
Mais vous le ferez d'ailleurs le 10 juin.
Je le ferai le 10 juin, oui.
Et ça, on va en parler, Nelson Goerner. Mais alors justement, pour en revenir à Nelson Freire, qui est un pianiste tellement discret en dehors de la salle de concert, est-ce que c'était quelqu'un qui théorisait sur la musique beaucoup? Parce que quand on l'écoutait, on avait l'impression qu'il y avait une telle évidence, un tel naturel, une telle sonorité, l'impression que la musique apparaissait presque naturellement.
Oui,
que,
il donnait cette illusion-là, qui est l'apanage, je dirais, des rares, de ceux qui sont vraiment grands. Et en même temps, je sais qu'il était un grand travailleur, et qu'il cherchait, il mettait toujours la barre plus haut, il voulait laisser un dépassement de soi, mais toujours pour laisser parler la musique, pas pour se mettre lui en avant. Et je pense que c'est une des qualités fondamentales pour lesquelles on est tellement attaché à lui, et qu'il avait un tel aura sur les musiciens qui l'ont connu.
Alors vous avez un attachement, on a l'impression aussi, d'ailleurs quand on vous écoute Nelson Goerner, vous avez une sonorité moi qui m'évoque certains immenses pianistes du passé, je ne sais pas, vous avez un son très particulier, immédiatement reconnaissable, et on a l'impression que votre son aussi est un héritage, et que pour vous tous ces grands maîtres du passé ont une importance essentielle.
Oui, pour moi ils ont une importance essentielle, parce que je pense que c'est dû au fait que là où j'ai grandi, il n'y avait pas de pianiste qui venait jouer.
Donc quelle ville d'Argentine?
C'était à San Pedro, en Argentine. C'était une petite ville où il y avait des activités culturelles, mais plutôt liées au folklore de notre pays, ou plus des activités littéraires, parce qu'il y avait, et il y a toujours, une bibliothèque populaire qui a fait une œuvre remarquable de diffusion de la culture, aussi bien de notre culture nationale qu'internationale, sans frontières. Mais il y avait rarement des concerts. Donc les pianistes, je les ai connus à travers le disque. Et donc j'ai commencé par les plus anciens, évidemment. Et c'est pour ça
Mais qui, par
que.
exemple, quand vous étiez
Mais les
petit, vous avez...
premiers que j'ai entendus, c'était Rubinstein. Après, il y a eu Kempf, Guillaume Arnovache, j'ai aussi connu très tôt, et bien d'autres, Backhouse.
Oui, vous êtes bien tombé
Et
quand
après, il
même.
y a eu Horowitz. Et ensuite, Martha, bien même, bien avant son retour en Argentine. Mais donc, j'ai toujours commencé, je dirais, les pianistes du passé sont ceux que j'ai connus à travers les disques, et mon apprentissage est passé par là. Ouais.
Parce que justement, va paraître un disque d'Iberia, l'intégrale d'Iberia d'Albéniz, un des immenses chefs-d'œuvre du XXe siècle, une œuvre composée en 1909 par Albéniz, et puis qui a eu un impact, qui continue à avoir un impact extraordinaire. Et j'ai vu un petit film dans lequel vous présentez cet enregistrement et vous montrez avec une sorte d'affection et d'émotion la partition d'Iberia annotée par Nikita
C'est
Magaloff.
ça, oui.
Ce qui est assez inattendu, parce que Nikita Magaloff, c'est vrai qu'il a interprété un peu ce répertoire espagnol, mais son nom est plus attaché à Chopin ou d'autres. Mais la manière dont vous montrez cette partition, avec tellement d'affection, on sent justement qu'il y a cette filiation. Comment vous en êtes venu à travailler cette œuvre à partir justement de cette
Alors, je
partition?
suis venu assez tard à la musique espagnole, à vrai dire, parce que hormis la Fantasia Bética de Falla, Les nuits de Falla et quelques pièces de Granados, je n'avais vraiment pas encore abordé ces rives-là, hein? Et surtout pas Albéniz. Mais je sais pas, j'ai commencé à entendre Iberia un jour. Je me disais, mais c'est fou que je ne regarde pas de plus près. C'est tellement génial, tellement original et tellement parlant, tellement. Oui, il y a tant de qualités là-dedans que je ne vais pas me mettre à nommer parce qu'on les banalisera, mais je me suis mis à travailler l'œuvre moi-même. J'ai cessé d'écouter, j'ai commencé à travailler moi-même.
Elle est monstrueuse, cette œuvre à
Oui,
travailler.
énorme.
Et,
Oui,
oui.
c'est quelque chose de gigantesque. Oui, il y a
Il
des difficultés pour les pianistes qui n'ont peut-être pas été surpassées. Il s'agit d'une des œuvres les plus difficiles de la littérature pianistique.
Mais et on sait pourquoi, justement, Albéniz a placé la barre tellement haut au niveau de la technique pianistique. Parce que, en fait, les œuvres d'Albéniz qui précèdent Iberia, il y en a de très belles, mais ça n'atteint pas ce génie qui
Non,
a
ça n'atteint pas ce
explosé.
génie, non. Et ça n'atteint pas aussi ce degré novateur quant au langage, d'une part, et quant à la nouveauté de la technique. Parce qu'il est allé même au-delà de ce que Liszt faisait. Hein. Il y a chez Albéniz des successions, des chaînes d'accords, par exemple, qu'on dirait des clusters. Hein. On pense au lava-pièces. Oui, où on se demande si, quand on est en train de lire la partition, si on joue juste ou si on joue faux, parce que c'est vraiment. Il y a des sonorités qui vous surprennent. Hein. Et aussi tous ces croisements de mains, il y a des choses, mais vraiment, si vous voulez les jouer telles qu'elles sont écrites, elles sont extrêmement acrobatiques. Oui. Mais il y a justement ce goût du risque qui fait partie du message que la musique contient.
Remarquez, vous
Oui.
jouiez il y a quelques jours le troisième concerto de Rachmaninov à Paris. On ne peut pas dire que ce soit une œuvre simple non plus,
Non, c'est
Nelson
pas simple
Gerner. Mais
non
ce n'est pas la
plus.
même
Au contraire,
difficulté.
non. Non, ce sont deux très grands pianistes, mais qui ont conçu les réécritures pour piano de manière tout à fait différente.
Alors, Iberia, donc c'est une œuvre, quoi, vous tourniez autour, vous avez attendu, vous écoutiez des enregistrements, Alicia de la
J'ai écouté
Rocha ou
jusqu'au
d'autres.
moment où je me suis dit, non,
Il
maintenant
faut que j'arrête.
j'arrête d'écouter, je me mets à l'étudier parce que pour moi, c'était une évidence que je voulais regarder de plus près. J'étais fasciné.
Mais c'est une œuvre, c'est quoi? C'est une Espagne, parce que ça commence par évocation. Enfin, je vais m'excuser.
Évocation,
Oui,
oui.
excusez-moi, j'avais peur de mal prononcer Nelson Gerner, mais en fait, on est dans l'évocation, on n'est pas vraiment dans la tradition. Ni c'est quoi? C'est une Espagne
Évocation, c'est dans les
imaginée.
domaines du rêve, c'est dans les domaines de l'imagination. C'est une Espagne aussi qui n'existait plus vraiment à l'époque où il a composé certaines pièces. comme par exemple la fête Dieu à Séville.
C'est la seule
Oui.
d'ailleurs qui est un peu descriptive
Oui,
dans les 12 pièces.
mais ce genre de procession, c'était dans la tradition, mais en même temps, je crois, j'espère ne pas me tromper, je crois que c'était déjà un peu désuet au temps où il avait imaginé ces cortèges. Mais ce sont des pièces qui ont une puissance évocatrice phénoménale, à proprement parler phénoménale.
Mais est-ce que c'est une musique qui a une postérité? Enfin, je veux dire, postérité, bien sûr, on écoute toujours avec un immense bonheur, mais postérité en ce sens qu'il y a des compositeurs qui, après cette œuvre, ont puisé dans cette œuvre, ou alors c'est une œuvre unique et il
Moi,
n'y
je
a
pense
rien
que c'est
d'autre.
plutôt une œuvre unique qui n'a pas tellement de successeurs. Je ne sais pas si elle pourrait en avoir, tellement elle est particulière, de par son langage, l'écriture, la nouveauté. Je pense qu'elle fait un corpus où il y a qu'elle qui habite, cette œuvre-là.
Alors en fait, ce disque qui vient après d'autres disques chez Alpha Classique avec des répertoires qui n'ont rien à voir. Justement, on parlait de Brahms, sa troisième sonate de Brahms, ce deuxième concerto de Brahms, Burlesque de Richard Strauss et beaucoup de Chopin, Debussy. Et là surgit ce disque d'Albéniz. Ça, c'est vraiment une œuvre que vous vouliez enregistrer depuis longtemps.
Oui,
Enfin, on
je voulais
sentait
enregistrer
vraiment.
depuis longtemps et je voulais le faire en public en plus. Parce que pour moi, ce n'est pas une œuvre qu'on peut faire dans un studio d'enregistrement avec la même intensité. C'est une œuvre qui demande le public.
Bah
Oui.
le public, il a hâte de vous écouter. Justement, le 10 juin,
Demande d'avoir un public. Oui.
vous jouerez au Théâtre des Champs-Élysées, dans le cadre de Piano 4 étoiles, justement, des extraits d'Iberia, je crois. Alors,
Evocación, El Puerto et Triana aussi.
en partant de Debussy, finalement, votre
Oui.
concert, et vous allez jouer des œuvres de Debussy. C'est quoi? C'est dans les estampes ou les
Les
images?
estampes,
Les
oui.
estampes.
Et là, on a des liens, évidemment, parce que nombreux sont les liens entre les deux compositeurs, mais du fait qu'il y a la soirée d'Engrenade dans les estampes, qui est
Pour un
aussi.
compositeur qui n'est jamais allé en Espagne,
Oui, ça,
Debussy.
c'est incroyable, hein. Ouais.
Et alors justement, vous rappelez une phrase de Debussy à propos d'Iberia. Je vais mal la dire, mais enfin, après cette œuvre, il n'y a plus qu'à fermer les yeux. Enfin, je
Oui,
l'exprime
oui,
très
oui, oui.
mal.
Non, il disait oui, quelque chose du genre que Albéniz, il était tellement flamboyant, il semblait jeter la musique par les fenêtres, et c'était tellement ensoleillé, hein, qu'après, les yeux avaient besoin de se fermer. C'est comme
Voilà.
si on avait contemplé trop d'images,
C'est
il avait
mieux
dit,
dit par
oui. Ouais.
Debussy et vous que par moi, Nelson Gurner, mais je me souvenais un peu de l'esprit. Et puis, donc, ces œuvres de Debussy, c'est un compositeur qui, lui, enfin, moi, j'ai le souvenir de vous avoir écouté jouer Debussy depuis tellement de concerts. Enfin, c'est un compositeur vers lequel vous revenez
Mais j'y
toujours.
reviens toujours. Oui.
Mais ça, depuis toujours, en Argentine, c'est un
Non, en
compositeur.
Argentine, pas tellement. Parce que je suis venu à l'étude des œuvres de Debussy beaucoup plus tard. Moi, je suis parti d'Argentine quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, j'avais joué quelques pièces de Debussy, mais comme tout étudiant de piano, pas plus que ça.
Quelques préludes
Non, même pas des préludes, mais Clair de Lune, les deux arabesques. Et beaucoup plus finalement. Quelques préludes, juste quelques préludes du premier livre, les premiers six peut-être. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que c'est arrivé dans ma vie pour y rester. Ça c'est sûr, oui.
Et donc vous commencerez ce concert. Je sais plus si c'est par la
La
Polonaise
Polonaise
Fantaisie
Fantaisie de Chopin,
de Chopin, qui est
oui.
aussi une des dernières œuvres de Chopin et qui est une œuvre assez incroyable, aussi d'une construction très particulière
Oui, et
quand
d'une
même, cette
liberté
Polonaise.
dans la forme qui est étonnante. Et puis, elle me fait toujours penser à Debussy, parce que malgré leur différence de langage et de style, la Polonaise Fantaisie est une œuvre prophétique. Et il y a des richesses harmoniques qui me font immédiatement penser à Debussy. Et alors, je comprends l'amour de Debussy pour
Pour
Chopin.
Chopin.
Oui, tout est là en fait.
Et cette œuvre, elle a quelque chose, parce qu'on attend, elle est sublime de bout en bout, mais il y a ce thème qui arrive dans la deuxième partie, on a presque une attente de la jouissance d'écouter ce thème
Et puis c'est une
dans la
œuvre où la
Polonaise fantaisie.
nostalgie de Chopin pour la Pologne, elle est sublimée, on peut dire, à l'extrême. C'est une pièce tellement imagée, mais rien ne doit sonner trop concret dans la Polonaise fantaisie, parce qu'elle ne fait pas partie de ce domaine-là, mais seulement de celui de l'imagination.
Et justement, ce concert Chopin, Debussy, Albéniz et Schumann, c'est un concert construit, on dirait vraiment, ces programmes, vous parliez de Nelson Freire, mais on dirait vraiment les programmes, effectivement, de grands pianistes enfin, qu'on adore, et puis justement du passé. C'est vraiment des programmes conçus comme ça, avec des compositeurs, qui en même temps, il y a des fils, enfin Schumann, Debussy, Chopin,
Oui,
effectivement.
bien sûr, il y a des
Albéniz
fils,
de
oui.
Debussy.
Mais c'est pas tant le souci du fil qui prime, disons, dans la
C'est
construction
l'amour que
du
vous avez pour
programme.
les œuvres.
Oui, je pense que c'est ça.
Vous pourriez jouer un programme avec des œuvres que vous aimez passionnément et qui n'ont rien à voir les unes avec les
Je pense
autres.
que peut-être je pourrais, bien sûr, dans l'idéal, on veut que ce soit des œuvres que vous aimez et que tout se tienne, oui, parce qu'il faut quand même un fil dans la narration qui soit là. Mais je pense que c'est le cas de ce concert. Il y a cette première partie où Chopin, Debussy, Albéniz, donc trois grands compositeurs pianistes qui ont fait sonner chacun à leur manière le piano comme ça n'avait pas été fait avant eux. Et il y a les études symphoniques de Schumann qui est une œuvre maîtresse, comme on sait,
Oui,
qui
alors
s'épasse de
ça,
toute définition en fait.
bah, comme toutes les œuvres de Schumann, du
Oui,
reste,
oui.
Nelson Gurner, je ne crois pas vous avoir écouté d'ailleurs interpréter cette œuvre, les études symphoniques. Je ne sais pas si c'est une œuvre que vous avez beaucoup
Je l'ai
jouée.
enregistrée il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais jouée en
Oui, voilà,
public à
je n'ai
Paris,
pas le
non.
souvenir de vous
Non,
avoir
effectivement.
écouté
Ah si,
d'autres.
si, si.
Ah,
Non,
alors
je l'ai jouée une fois à Paris, oui. Mais il y a très longtemps.
Bah
Oui.
écoutez, en tout cas, voilà, bah pour ceux qui n'ont pas pu vous écouter à ce moment-là et dont je suis Nelson Gurner, on est tellement heureux de vous écouter dans cette œuvre. Vous jouez avec les variations posthumes,
Oui,
ces
tout à
études
fait. Oui.
symphoniques.
Parce que les variations posthumes, simplement, je les adore. Je ne comprends toujours pas pourquoi Schumann, il les avait
Mise de côté.
mises de côté. Oui. Je pense que peut-être ça tient à l'architecture de l'œuvre ou à une longueur qui a pu lui paraître excessive. Peut-être.
Avant ce concert
Peut-être.
du 10 juin, on va vous retrouver aussi à Paris le 25 mai à Radio France pour le deuxième concerto de Brahms, parce que là vous avez enregistré et que vous jouerez aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Philippe Hervaigue, qui est un chef magnifique, mais alors qu'on n'attend pas forcément dans ce répertoire. Vous avez déjà interprété cette œuvre
On
à
a
ses
déjà joué
côtés?
le si bémol de Brahms ensemble, oui. Et c'était toute une expérience. Justement parce que, probablement dû au fait qu'on n'associe pas forcément Philippe avec ses répertoires.
Oui, mais Brahms, lui, Brahms, pour lui, Brahms, c'est vraiment l'héritier de Bach.
Mais
Il le voit comme
justement,
ça.
mais justement. Donc c'est là où les idées reçues, elles ont toujours tort,
Oui.
hein, parce que là, j'ai trouvé qu'il avait une approche justement qui vient des maîtres anciens et qui se tient mais à merveille et qu'en plus est d'une fraîcheur étonnante, mais vraiment étonnante. Je crois avoir beaucoup appris du fait d'avoir joué le si bémol de Brahms avec Philippe
Avec
Hervé,
lui.
oui.
Et alors, on va parler du violoncelle dans le mouvement lent du si bémol de Brahms, Nelson Gurner, mais là, il y a quelques jours, vous avez joué avec aussi un orchestre merveilleux, qui est le Concerthébo d'Amsterdam. Comment ça se passe justement quand on joue un concerto avec un tel orchestre, un tel chef? Est-ce que ça porte plus? Enfin, quel est le
Oui,
rapport
je
qu'on
trouve
a?
que quand on aborde un concerto avec des orchestres d'un niveau pareil, forcément ça donne un surplus à l'interprétation. On se sent véritablement porté par l'orchestre. On se sent plus à même d'aller plus loin dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on imagine, dans ce dont on a toujours rêvé.
Et ça change beaucoup,
c'est formidable. Oui,
votre jeu,
vous pouvez aller plus loin, par exemple, dans votre palette sonore, parce que vous savez que si vous descendez, vous allez plus dans les pianos pianissimo, ils vont vous suivre. Et il y aura un velouté, par exemple, dans les cordes qui sera extraordinaire, qui va... Bref, que l'orchestre va vous porter, vous suivre, être à vos côtés. Hein, qu'il n'y aura pas... les pianistes d'un côté et l'orchestre, aussi bon soit-il, de l'autre. Mais qu'il y aura une sorte de fusion qu'on peut rarement atteindre si ce n'est qu'avec des orchestres d'un tel niveau.
Enfin, pour vous avoir écouté plusieurs fois en concerto, de toute façon, vous êtes toujours tourné vers l'orchestre.
Oui, parce que je trouve que l'expérience du concerto est là ses racines dans la musique de chambre, ou du moins elle devrait les avoir, et très fréquemment. Et donc, ça ne me vient pas à l'esprit de jouer ma partie, ça me souciait justement de ce côté dialogue, ce côté musique de chambre. Et c'est qu'il peut y avoir aussi d'intime dans l'exécution d'un concerto.
Alors justement, pour parler d'intimité, ce deuxième concerto de Brahms, il y a ce fameux mouvement avec le violoncelle qui ouvre, ce mouvement lent, et puis le piano qui arrive, enfin... Pour nous, auditeurs, c'est le bonheur intégral, c'est-à-dire...
Absolument, oui. C'est un moment tellement attendu.
On connaît peu d'œuvres qui donnent un tel frémissement à l'auditeur. Et alors vous l'avez joué à énormément, je pense, ce concerto avec divers orchestres. Et comment ça se passe? Vous parlez avec le violoncelliste avant, ou alors les choses se font naturellement?
Non, je pense que, en général, les choses se font et... Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Moi, entendre ce solo de violoncelle, quand je suis assis au piano, ça ne peut que m'inspirer. Et aussi, je me sens porté par cette musique. Alors, quand il y arrive ces quelques mesures de piano solo, en ayant déjà écouté les violoncellistes, je suis déjà dans la musique. Oui. Donc, je pense... que ce n'est pas une affaire de beaucoup se parler, mais de s'écouter.
Alors, on parlait de Philippe Hervé,
véritablement.
Et l'héritage de Bach en évoquant Brahms. Mais justement, à propos de Bach, je me souviens de vous avoir écouté, je ne sais plus si c'était après le quatrième concerto de Beethoven, je crois que c'était après le quatrième concerto de Beethoven, vous étiez aux côtés de l'Orchestre de Paris, et vous avez bissé, je crois, la sarabande d'une partita.
Oui, c'était Bach. La sarabande de la sixième partita.
Qui était aussi pour nous un moment de bonheur intégral. Est-ce que c'est un compositeur vers lequel vous irez de plus en plus
Bach? Je l'espère, oui. Oui. Parce que j'ai tant tardé à jouer Bach en public, mais maintenant je ne compte plus l'abandonner.
Pour nous. Et donc vous allez justement...
Mais j'étais parce que dans ma génération, on a été forcément conditionnés par toutes les nouvelles tendances musicologiques, par toute la recherche. Et il y a eu un moment où les pianistes...
étaient bloqués par rapport à ça.
C'est comme si... Il y avait... Oui. De quelque manière, un certain blocage qui s'installait. Et on n'osait plus vraiment aborder Bach au piano, ou on s'est cassé la tête, vraiment. Et au lieu de simplement les jouer avec toutes les possibilités du piano, de l'instrument que nous avons à disposition, parce qu'alors il ne s'agit pas de faire une caricature ou une copie de l'instrument ancien. Alors, mais une fois qu'on se décomplexe, c'est quel bonheur de pouvoir aborder toutes ces œuvres géniales. J'ai eu de la chance de travailler avec des musiciens comme Franz Brüggen, avec qui j'ai énormément appris.
Mais comment vous avez travaillé avec lui en tant que chef?
Il a dirigé... Oui, alors il m'a dirigé, mais dans les concertos de Chopin. Mais c'est là où j'ai pris la dimension que, en fait, toute cette mouvance ou cette recherche qui avait été faite dans la musique baroque ne devait pas avoir, elle n'était pas pensée pour avoir ce côté terrorisant qu'il pouvait avoir pour nous, les pianistes, à un moment donné.
Oui, d'ailleurs, on voit aujourd'hui des clavecinistes assister à des concerts de piano,
absolument,
de Bach au piano.
Oui, oui, oui. Alors, je pense que finalement, nous sommes arrivés à nous décomplexer par rapport à tout ça et à intégrer ce qu'il y a de merveilleux dans cette recherche, dans toutes les découvertes qui ont été faites, qui ne peuvent qu'enrichir votre connaissance et vos interprétations. et en même temps ne pas avoir peur d'utiliser les ressources du
Du
piano
piano.
moderne quand vous jouez Bach. Parce que ça serait de se priver de quelque chose de fondamental. Comme je pense toujours, il s'agit pas de faire une caricature ou une copie quelconque de l'instrument ancien. Nous avons à notre disposition un piano qui a un éventail de couleurs énormes. Je pense que si vous les utilisez sans trahir les styles, avec la discrétion qu'il faut appliquer lorsqu'il s'agit de la musique de Bach, alors l'emploi du piano moderne est parfaitement légitime.
Oui, mais justement, quand vous avez interprété cette sarabande, la sixième partita, moi j'étais assez haut dans la salle de la Philharmonie, et en même temps, il y a l'instrument moderne qu'est le piano, un Steinway ou un Böschendorfer, enfin en l'occurrence ça devait être un Steinway, et en même temps ça recrée une intimité avec un instrument
Oui.
contemporain, et on a l'impression voilà, d'une proximité avec cette musique.
Voilà, je pense que l'instrument moderne, malgré toute sa puissance sonore, vous permet également de recréer ces moments d'intimité, ces moments où vous n'ajoutez pas quelque chose qui n'appartient pas à ce langage. Voilà.
Et vous, alors Nelson, quand le matin vous devez travailler au piano et qu'on vous demande pas de jouer au pied levé le troisième concerto de Rachmaninov, quelles sont les œuvres que vous
Je
allez
commence souvent
travailler?
avec du Bach.
Ah oui,
Oui,
justement.
justement pendant toute l'époque de la pandémie Covid, je m'étais remis au prélude des fugues et avec le plus grand bonheur. Ça faisait le bonheur de chaque matinée.
Donc vous commencez par cette musique
Oui, très
qui
souvent,
nourrit.
très souvent, oui. Ça m'ouvre l'esprit, le cœur et les doigts tout en même temps.
Bon, en tout cas, c'est des œuvres qui vont nous ouvrir l'esprit et le cœur que vous allez interpréter à Paris. Il y a d'abord ce concert le 30 mars prochain. Vous serez aux côtés de Martha Argerich pour cet hommage à Nelson Fréret. Ce sera, vous allez uniquement jouer ou il y aura un hommage aussi, ou c'est le fait de votre présence et votre jeu qui lui rend hommage, qui lui rend hommage,
Je ne sais pas ce qui a
qui
été
est
prévu,
prévu pour.
mais je crois que l'essentiel,
C'est la musique.
c'est la musique et que nous avons tellement envie de lui rendre hommage.
Et puis, pour arriver à des choses moins douloureuses, le 25 mai, vous serez aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Philippe Hervéguez pour le deuxième concerto de Brahms. Alors justement, je vous ai entendu beaucoup dans le deuxième concerto de Brahms. Et le premier, c'est une œuvre qui vous est moins proche
Non, je
ou...
l'ai aussi beaucoup joué. J'ai fait une tournée en Italie en décembre dernier où je l'avais joué 6 fois. Je l'ai aussi joué en Hongrie 2 fois récemment. Oui. Mais c'est vrai que ces dernières années, je l'ai un peu moins joué que le si bémol. Oui.
Enfin, ces deux frères
Ouais.
tellement
Oui,
différents
tellement
et
différents,
tellement
mais tout aussi
essentiels.
merveilleux l'un que
Oui,
l'autre.
c'est ça.
Oui. Je ne pourrais pas dire lequel je préfère, mais c'est vrai que ces mouvements-là du deuxième concerto, il a quelque chose d'unique.
Oui, et puis bon,
Ouais.
cette joie qui explose dans le quatrième mouvement aussi,
Ouais.
enfin, il y a une tendresse
Dont on a
aussi.
tellement besoin.
Oui, c'est
Oui,
ça.
ouais.
Oui, et
Et
puis
ce
à la
côté un
fois
peu
tendre.
libérateur,
Oui, c'est
plus enjoué,
lumineux.
plus
Oui,
lumineux, oui.
il arrive à être enjoué et en même
Ouais.
temps, ça reste quand même
Ouais.
de l'immense Brahms.
Absolument.
Et puis, on vous retrouvera aussi le 10 juin, alors là, en récital, avec Chopin, Debussy, Albéniz, et puis ces variations, enfin les études symphoniques de Schumann. Je me souviens d'ailleurs de vous avoir écouté dans les Davidsbündler Tänze, qui est un autre immense chef-d'œuvre de Schumann. Donc peu à peu, vous interprétez tous ces grands cycles de Schumann. Comment ça se passe
Des cycles
justement?
schumanniens, j'avais commencé avec le carnaval. J'avais auparavant travaillé les variations à Bègue. Je les avais jouées au concert. Et ensuite, il y a eu donc le carnaval. Plus tard est venue la fantaisie. Et beaucoup plus tard, les études symphoniques. Et les Davidsbündler Tänze, c'était les derniers cycles que j'ai abordés. Oui.
Et alors, juste un mot justement des variations à Bègue. Moi, c'est une œuvre que j'adore. Et alors, il y a cet enregissement de Clara Askill qui est tellement.
Ah, c'est merveilleux.
Y a des
C'est
pianistes comme ça qui
extraordinaire.
laissent leur image
Oui, oui,
sur
oui,
certaines
oui.
œuvres.
Inimitable.
Et on ne sait pas à quoi elle est due, cette magie. C'est une pianiste dont vous écoutez les enregistrements. Vous
Je l'ai beaucoup écouté, pas récemment, mais naturellement que son enregistrement d'Abeg, je l'ai en tête.
Il y a quelque chose d'assez incroyable.
Oui,
Enfin...
et il y a un charme, il y a un, c'est pas un franc-parler, c'est tellement naturel. Oui, je me dis, mais c'est interprété à la perfection.
Eh bien, écoutez, en tout cas, ce bonheur qu'elle procure, vous nous le procurez aussi, Nelson Gurner. On a tellement hâte à la fois d'écouter ce disque d'Iberia qui va bientôt paraître pour le label Alpha Classics et puis tous ces concerts qu'on a évoqués. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci Frédéric, c'était un grand plaisir pour moi.